Chronique Livre avec Anne-Marie Aubin. On la rejoint non pas à Marie-Ange Gaspésie, mais à Lévis, si je ne m'abuse. Bonjour Anne-Marie.
Oui. Bonjour, je suis en route vers la Gaspésie.
OK, j'espère que vous êtes en route, mais que vous n'êtes pas au volant.
Non, non, pas présentement. Là, je suis arrêtée pour vous parler.
Merci beaucoup.
Et puis, l'idée, c'est d'arriver avant la tempête. Hein? C'est
oui,
ça, le projet.
Oui, 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 voilà. Mais ne pèsez quand même pas trop sur le champignon.
Non.
Alors, Anne-Marie, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année.
À vous tous également.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous souhaite?
Ah, de belles lectures, de belles découvertes et du temps pour lire.
Oui, absolument. Alors, vous avez pris le temps de lire dans le temps des fêtes?
Oui, puis justement, ce dont je parle aujourd'hui, c'est un livre très original qui s'intitule « La fiancée » aux éditions Mécaniques Générales. C'est un gros roman graphique de 311 pages qui est paru il n'y a pas longtemps, peut-être en octobre-novembre. C'est écrit et illustré par Eleanor Goldberg, que je ne connaissais pas. C'est un texte très original dans sa facture et son contenu. Elle, en fait, c'est une fille qui est née en France en 1985. Elle est toute jeune. Et puis, elle vit maintenant à Montréal. Elle s'intéresse aux devoirs de mémoire et à la transmission. Et bon, ses ancêtres sont des Juifs. Et elle a voulu s'informer auprès de sa famille, des gens qu'elle connaissait, pour transmettre des valeurs à travers des films d'animation qu'elle a fait. Et puis aussi, ben, ce texte-là qu'elle a écrit à partir d'une pièce de théâtre qui existe déjà. Donc, elle est autrice, illustratrice et elle enseigne l'illustration. Donc, ce roman graphique est en noir et blanc essentiellement. Parfois, les illustrations sont symboliques, parfois sont minimalistes, parfois hachurées pour finalement juste donner une idée puis mettre l'accent sur autre chose. Les plans sont très variés, des gros plans, des plans d'ensemble, en plongée, et c'est parfois illustré d'une façon expressionniste, un peu fantastique, parce qu'il y a effectivement du merveilleux, du fantastique, parce qu'on est dans une religion avec des légendes, des croyances, qui sont finalement très présentes dans ce texte-là. Quand il y a un mort, par exemple, il y a une double page noire avec rien du tout. Fait qu'on vient de comprendre la symbolique. Et parfois, le texte est écrit en blanc sur noir. Donc, il y a beaucoup de variétés, même si c'est du noir et blanc. Et ce que ça raconte, ben, ça commence une jeune adolescente, on est dans le présent, là, on est tout près d'aujourd'hui, qui passe ses journées un peu déprimée, allongée sur un canapé. Et puis, elle semble être en peine d'amour, en tout cas, elle a un chagrin. Et son père va lui offrir un livre qui s'appelle « Le D-book », qui est une pièce de théâtre, justement, de théâtre yiddish, un classique, qui est écrit par un monsieur dont le pseudonyme est S, pour je ne sais pas quel prénom, Anschke. Et cette pièce de théâtre, ça a été adapté moult fois. C'est quelque chose que tout le monde connaît au niveau des assidiques. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui ne veut pas se marier. Alors elle commence à lire ça, elle trouve ça très intéressant. Fait que quand elle ouvre le livre, on entre avec elle dans l'histoire, c'est une mise en abîme. Et puis elle, la jeune fille n'est pas très importante, elle va revenir à la fin quand elle ferme le livre. Et le D-book, ben, qu'est-ce que ça raconte? C'est une histoire qui se passe à la fin du 19e en Ukraine, dans une petite bourgade. On appelle ça un chattel. Et elle met en scène Léa, une jeune femme, orpheline de mère, qui a grandi avec sa nourrice, qui s'appelle Fradé, et son père, qui s'appelle Sandon. Et là, ben, elle est rendue à l'âge de se marier, et on organise les mariages à cette époque. Donc, son père va faire venir des jeunes hommes, puis elle va faire une brioche qu'on appelle Hala. Et elle reçoit donc avec son père des étudiants de la Yeshiva, qui est un lieu où on étudie la Torah. Puis parmi les étudiants, il y en a un qui s'appelle Conan, qui lui, tout de suite, quand il la regarde, il y a quelque chose qui se passe. Alors son père va interroger ce garçon, lui demande qui il est, ben, qui vient de Lituanie, qui est étudiant, étudie la Torah. Puis il dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Est-ce que tu veux faire du commerce? Est-ce que tu veux faire de l'argent? Il dit, moi j'aime étudier. Alors là, le père va l'éliminer tout de suite parce que lui, ce qu'il veut, c'est avoir un gendre qui est riche et qui va faire vivre sa fille. Mais elle ne l'a pas oublié et lui non plus. On apprend plus tard que ce garçon-là, c'est le fils du meilleur ami du papa de Léa, Sandon. Et quand ils étaient jeunes, ils ont été à l'école ensemble. Et puis plus tard, quand ils sont mariés, ils se sont dit, plus tard, on mariera peut-être ensemble nos enfants. Les deux ont eu des enfants, un garçon, l'autre une fille. Puis lui, là, Sandon, le père du garçon, il est mort pas longtemps après sa naissance, comme la maman de Léa est morte pas longtemps après sa naissance. Donc, ce qui fait que lui, il l'a pas reconnu parce qu'il a perdu son ami de vue depuis des années. Il cherche juste la richesse. C'est un radin, finalement. Alors donc, le temps passe et Léa, elle va parfois à la synagogue et elle voit ce garçon-là qui la regarde. Et puis, il y a quelque chose qui se passe et elle dit, je croise parfois Conan le samedi matin en sortant de la synagogue. Ses yeux brillent, mon cœur bat si fort que j'ai peur que papa l'entende. Il ne l'a plus invité à notre table. Il s'est mis en quête d'un mari comme il faut pour moi. Je crains qu'il ne le trouve. Alors, Conan, c'est un surdoué, un mystique qui va faire des prières, pardon, qui va aller faire des bains comme sauna, là, qui va s'initier à la cabale pour la rejoindre, pour qu'il la marie. Évidemment, ben, il ne va pas pouvoir, sinon la pièce, ce serait trop simple. Et au moment où le père veut marier sa fille avec un autre, ben là, elle va tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Elle va voir sa mère au cimetière, elle la supplie de l'aider, elle va prier à sa tombe. Et elle va à la tombe des saints fiancés. Et c'est là que la légende arrive. On raconte qu'il y a deux fiancés qu'on a torturés, qui voulaient se marier, puis qu'on a tués, et qui sont finalement dans le cimetière. Et chaque fois qu'il y a un mariage, on les entend soupirer. Et là, elle va là. Et le danger, quand une personne, une fiancée est seule avant son mariage, c'est qu'elle peut être habitée par des esprits malins. Et c'est ce qui va lui arriver. Alors, on dit que quand un être humain meurt, ben, il faut qu'il trouve une place, la sérénité en quelque sorte. Et le garçon qui se meurt d'amour pour elle, on comprend qu'il s'est suicidé ou quelque chose comme, on dit ici, si un être meurt avant son heure, s'il ne trouve pas de repos, si aucun corps ne l'accueille en son sein, cet être est voué à la plus grande des solitudes, le pire des souffrances. Et elle, elle ne veut pas que son amoureux soit perdu à jamais, alors elle va tenter de l'appeler et il va l'habiter. Alors, au moment du mariage, ben, habité par cet esprit qu'on appelle le Dibouk, le malin, ben, elle va dire non, c'est pas lui mon amoureux, je veux pas le marier. Et puis bon, ben c'est qu'en fait, l'histoire se termine très mal. Son père veut la marier à cet homme-là, puis là, il va essayer de l'exorciser, puis bon, je dis pas comment ça se termine. Mais à la fin de la lecture, la jeune fille qui était sur le canapé, toute déprimée, dit qu'elle n'aime pas la fin de l'histoire. Et elle va en faire une réécriture. Puis elle dit, je crains que ça plaise pas à mon père. Donc, on est comme dans une réécriture féministe, un classique, le Dibouk, mais aussi de toutes ces histoires d'amour impossibles. Je pense à Roméo et Juliette. Combien d'histoires sont inspirées de ces amours impossibles? Et combien les femmes n'avaient rien à dire là-dedans, les mariages arrangés, soi-disant.
Elles avaient des choses à dire, mais on les muselait.
Voilà, c'est ça. Alors donc, on met à la fin un symbole comme quoi la robe de mariée est par terre, mais il n'y a plus personne dedans. Et là, on voit des paysages et une silhouette. Et c'est comme si elle s'était évadée, échappée. Elle entre dans un musée, on pense que c'est ça, il y a des escaliers, des couloirs, puis on voit une toile de Gustav Klimt, à peine esquissée, mais que j'ai reconnue, qui s'appelle Judith. Et Judith, c'est un personnage biblique. C'est une jeune juive qui était veuve et qui, pour sauver son village, sa ville, va décapiter le général Holofernes. Elle est à la fois séductrice parce que sur le tableau, on la voit avec un très beau collier, elle est très belle, elle a un sein nu et elle tient dans sa main la tête de Holofernes qu'elle a décapité. Donc, c'est une héroïne qui a sauvé par sa détermination. Et en même temps, c'est une très belle femme. Donc, elle est le symbole d'une femme qui s'assume et qui est accomplie. Et puis, elle s'appelle Judith, qui est un personnage religieux, de la Bible, de la Torah, tout ça. Alors, donc, je trouvais que c'était c'est un beau clin d'œil que l'illustratrice a fait à la fin du livre. Mais ça, c'est comme la partie contemporaine. Ce qui est très intéressant, c'est d'étudier cette partie que je connaissais pas, moi, le Dibouk et toute la religion, puis les symboles du judaïsme qui sont partout, la manière dont les personnages sont habillés, leur façon de faire, la fameuse croix là, qu'on reconnaît partout. Et ça m'a fouillée. J'ai été fouillée pour savoir ce qu'il en était. Puis à la fin, on a un glossaire, des mots qui sont utilisés, qu'on ne connaît pas toujours. Puis quand parfois c'est écrit en écriture en hébreu, là, ben en bas, via la traduction en français. Donc, c'est un livre très original dans sa facture. C'est très intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses. On va dans le passé, dans le présent, puis dans le très contemporain. Puis, en même temps, ben, c'est basé sur une œuvre qui existe déjà, mais réécrite, je dirais, d'une façon contemporaine. Alors, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était une belle réussite, une œuvre à découvrir, parce qu'on sait très peu de choses, finalement, de tout ce monde-là. Du moins, moi, j'en savais pas grand-chose. Et ça nous instruit, et ça nous fait comprendre, finalement, comment les femmes étaient... justement un peu coincé dans des dogmes et que c'était très difficile pour elle de s'épanouir dans le mariage à cette situation-là. Alors, La fiancée, c'est ça le titre de ce roman graphique qui nous fait réfléchir beaucoup sur la situation des femmes, les mariages arrangés et la liberté d'aimer, finalement. Alors, très, très beau livre que je recommande chaudement.
D'Eléonore Goldberg, qui avait aussi créé une BD, La Demoiselle en blanc, avec Dominique Parenteau-Leboeuf, hein, à Mécanique Générale aussi.
Oui, puis elle a même écrit un roman que je connais pas, qui s'appelle Maison fauve, chez Triptyque. Alors, je vais aller la découvrir parce que, oui, elle a fait chez Mécanique Générale, Les Demoiselles en blanc. Alors, puis elle fait beaucoup de films d'animation. Donc, il y en a un qui s'appelle Papy. C'est par rapport à son grand-père, parce que ses ancêtres sont des Juifs. Alors, c'est un bel hommage à sa famille et à cette communauté qu'on connaît si peu.
Merci pour cette proposition, Anne-Marie. La fiancée aux éditions Mécanique Générale par Éléonore Goldberg. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne lecture, oui, et bonne route. Soyez prudente.
Merci beaucoup. Au revoir.